Ça va.
RCV 99, troisième édition du Vénus Tattoo Convention, avec Flavie qui est avec nous pour des interviews. Cette année, c'est pas trop des tatoueurs ou des perceurs qu'on accueille, mais des gens qui font des médias, comme on dit. Et là aujourd'hui c'est Cassette. Alors Cassette, moi j'ai connu les cassettes, hein. Cassette, K-S-E-T, Média Digital DJ. Alors vous pouvez vous présenter ou bien ouais. Ils sont à 5.
Vas-y, dis-la, non.
Alors, il y en a qui habillent tout en blanc, les autres, ils sont tout en noir, à part un qui est en jean aussi. C'est pour les gens qui ne nous voient pas.
Je m'appelle Dylan Breyer, je suis le fondateur du collectif Chicken Wave et on est tous ici cofondateurs de Cassette.
Alors, moi, c'est Maxime Mersac, je suis aussi cofondateur de Cassette. J'ai fondé aussi l'association Bass Impact. Qui organise des soirées bass music dans les Hauts-de-France. Et voilà.
Je m'appelle Simon, j'ai un projet de VJing et scénographie sous l'alias SG Capta. Et du coup, on VJ un peu partout. Et on s'est associé au projet sur la partie technique, production du coup vidéo et mapping avec le mur de télé.
Donc moi c'est Léo, pareil, associé à SG Capta sur toute la partie vidéo. Et du coup, dans le même délire, on s'est associé avec Chicken Wave pour fonder Cassette et toute la partie production de toutes les émissions.
Et moi du coup c'est Baptiste, et je suis cofondateur de Chicken Wave avec Dylan qui a parlé au tout début. Et voilà.
Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de... Vas-y.
Ce qu'on peut préciser, c'est que moi j'ai plutôt une formation en architecture avec Dylan, donc on fait plutôt partie de la DA du concept Cassette. Et pour présenter le concept, du coup, on revient à ce que vous avez dit au tout début, l'objet, la cassette VHS. L'idée, c'était de la réinterpréter en média de musique. Donc on a une scénographie en télé cathodique, les vieilles télé,
ah oui,
sur lesquelles on diffuse du coup des images grâce à notamment Simon et Léo par le Vejing. Et le but, c'est de diffuser chaque set sur YouTube, un set par semaine, et de tenir ce rythme pour proposer de la musique à tout le monde.
Comment on construit un set quand on sait que ça va être filmé, quand il y a le vegging? Comment vous créez en fait votre émission média avant de la publier? Comment vous y réfléchissez?
Je pense que d'abord, il y a la recherche d'artistes. Donc, c'est des artistes qui nous contactent ou que nous, on contacte, on les choisit. On essaye d'afficher déjà une réelle pluralité dans les genres et les styles qu'on veut afficher sur cassette. Et après, ces artistes vont nous donner leur vision artistique et visuelle de la musique. Et c'est des bases sur lesquelles on s'accroche pour préparer des médias, des effets, pour suivre en direct le set de l'artiste, parce que des fois ça peut être un live et à chaque fois on a des artistes producteurs, donc on a quand même leur base de production comme référence et entraînement, et ensuite on l'éclaire avec une partie de leur direction artistique et notre partie de direction artistique du projet.
Alors si je comprends bien, donc par exemple s'il y a un gars qui mixe, vous filmez, puis derrière il y a toutes les télés, donc avec plein d'images différentes dedans, comment on fait pour s'y retrouver à un moment donné? Parce que s'il y a plein d'images, ce que je veux dire. Des fois, pour moi, enfin, moi, mon truc, c'est j'aime bien, mais des fois, je m'y perds un peu quand il y a trop de choses derrière, quoi. Après, bon, c'est peut-être que.
Notre support, c'est plein de téléviseurs, mais qui en font qu'un seul. En fait, c'est une vraie toile où on peut diviser chaque source et donc afficher une seule image à la fois ou plusieurs. Et plus il y aura d'images, je pense, c'est quand plus on aura de matière dans la musique.
Et du coup, pour revenir sur la techno, donc c'est des télés que vous avez transformées, où vous arrivez avec le signal Péritel justement à rediffuser sur ces anciennes télés, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une technique particulière, propre à vous peut-être, pour en faire un écran plein finalement?
En fait, c'est un petit truc de geek où on convertit chaque signal. Et pour à la fin, dans des matrices et des dizaines de câbles, pouvoir avoir cette solution où je peux donner le mur à n'importe quel VJ artiste qui voudrait poser dessus. Il se branche et il peut poser dessus maintenant.
Ok, et du coup, question subsidiaire, est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà? Ou parce que moi, j'avais jamais vu ce genre de technologie. Est-ce que vous avez créé le truc ou
Ouais, il y avait des installations cathodiques déjà, parce que Chicken Wave, de base, cet asso s'est fondé artistiquement en proposant à chaque fois des visuels sur 1, 2, 3, 4, 5 moniteurs. Et là, l'idée, c'était d'en faire un énorme moniteur où dedans, il y a toutes ces petites télés. Et c'est comme ça qu'on fait la musique, quoi.
Et on peut ajouter que si ça existait déjà, pas forcément lié sur les sets et la musique en format studio, ouais. Mais nous on a une référence à Paris qui est TV Store, qui eux font de la scénographie plutôt pour événements, musées, marques. Et on s'est rapproché d'eux, on a été les voir pour aussi avoir des conseils. Donc on n'est pas les seuls à faire de la télé cathodique, mais dans le format studio on est quand même un peu tout seul, on va dire.
Et à quel moment, du coup, l'idée est venue? Comment l'identité visuelle s'est créée? Qui est un peu derrière tout ça? Est-ce que c'est vraiment les cinq cerveaux devant moi qui ont mélangé tout ça? Ou il y avait une base, un départ?
En fait, l'histoire, elle est assez simple. C'est que Chicken Wave, on a récupéré deux premières télé cathodiques juste parce qu'on n'avait pas d'argent pour faire un drapeau avec le nom de notre collectif. Ce que tout le monde faisait à l'époque. Et donc, on s'est dit, on prend deux télé cathodiques, deux pieds de monitoring, et puis on va afficher des visuels dessus. On a testé comme ça. Puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. On a commencé à avoir pas mal. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai loué un garage pour mettre toutes les télé cathodiques. On faisait que cinq soirées par an. Donc, en fait, 360 jours, elle dormait dans un garage classique. Et on s'est dit au début avec Baptiste, avant que les gars nous rejoignent, que ce serait bien d'avoir un concept où ces télés-là, en fait, on puisse les faire tourner tout le temps, quoi, qu'elles restent pas enfermées dans un garage. Et c'est là qu'est née Cassette, quoi.
Et après, pourquoi les télé cathodiques par rapport aux écrans plats c'est plus facile à travailler,
c'est gratuit.
C'est gratuit. Ah bah non.
Ça devient de plus en plus cher, les télé cathodiques.
En fait, oui, il y a une vraie hype qui revient sur les télé cathodiques, et c'est un peu une esthétique vintage. Nous, on le voit dans le mur, chaque télé a un peu sa petite particularité. Oui. Il y en a qui font de la couleur, d'autres qui restent en noir et blanc. Et pareil dans les formes et tout, c'est pour ça qu'on aime bien allier plein de modèles de télé différentes, et qu'on en a plein aussi, c'est que ça crée quelque chose de très organique dans le fond, mais tout ce qui est empilé au-dessus se ressemble pas, et chaque télé a son petit problème qu'on doit essayer de régler petit à petit. Donc l'esthétique elle a rien à voir, et ce serait beaucoup moins parlant de faire ça si on avait un énorme écran LED et on avait déjà un visuel de télé. Ça perd un peu de sa valeur, et pour nous aussi c'est pas du tout le même ressenti global, quoi.
Vous, votre travail en vegging, du coup, sur différentes télés comme ça, enfin, c'est un immense... comment dire? Dans chaque télé, il n'y a pas une vidéo qui tourne. C'est vraiment un immense à plat qui est sur l'ensemble des télés. Comment vous travaillez le vegging là-dessus? Parce qu'en général, c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir sur des écrans plats, du vidéoprojecteur. Comment vous travaillez à travers la télé cathodique et tout plein de petits écrans, en fait, finalement?
Mais du coup, on peut rebondir sur la question précédente. C'est que chaque télé, du coup, elle nous offre chacun leur défaut, leur grain et leur pixel qui est différent. Donc on n'a pas une colorimétrie unique. Et c'est avec cette base-là que nous, on va choisir notre esthétique un peu glitch et VHS, et la gonfler et la croiser avec l'esthétique que l'artiste veut apporter sur son set. Faire des dates sur écran LED, ça n'a rien à voir, parce que c'est pas un mapping, c'est un vegging tout simple. Et là, c'est vraiment la gestion des sources, plus la gestion de ce qu'on y met dedans. Et moi, je m'appuie sur vraiment chaque défaut de chaque télé pour donner vraiment de la chaleur à l'image, quoi.
Dans une époque où on doit recycler, faire des économies, tout ça, vous êtes carrément en plein dedans, quoi. C'est une façon de travailler très économique, écologique.
Le mur, il nous a rien coûté, c'est que de la récup. Ouais. Et puis nous on cherche toujours des télés pour agrandir ce mur et pouvoir proposer une expérience la meilleure possible. Parce qu'on pense que plus il y a de télés aussi, plus c'est impressionnant. Et nous, c'est ce qui nous fait kiffer aussi.
Et moi, j'ai une petite question concernant l'identité visuelle sur les réseaux, qui est un peu derrière ça, qui est dans le détail de cette petite cassette que chaque DJ vient signer, qui est d'ailleurs génial, franchement, c'est super. Qui est un peu derrière ça.
Alors, on a la chance d'avoir une équipe qui se complète. Alors, on a quand même ici des personnes qui gèrent très très bien leur taf en termes de technique, mais pour le mettre en avant sur les réseaux, Moi je fais les photos et les vidéos qui vont animer les réseaux. On a aussi Léo qui gère toute la partie YouTube, Dylan aussi qui poste également, mais grosso modo on a la chance, je rebondirai sur ce qu'il disait Léo, en fait on a la chance d'avoir un projet qui esthétiquement est très très beau, mais c'est aussi un défi technique, car quand on prend en photo, quand on prend en vidéo du matériel très ancien, on a en fait toutes des fréquences, tous des frames qui apparaissent, et c'est ce qui donne aussi le charme du projet. Donc très très fier de faire partie de cette équipe et de le mettre en avant, et de mettre en avant aussi la localité sur l'île. Donc ça c'est super aussi pour les artistes.
Non mais je pense surtout que sur toute la partie direction artistique, ça a été un peu un gros travail global, surtout sur la partie du coup le YouTube qui est le sujet principal de ce qu'on sort. Donc tout le monde a travaillé à sa petite échelle sur chacun des petits sujets qu'on avait, et on associe tous ces sujets ensemble pour mettre en commun, se poser les bonnes questions et faire en sorte de faire toujours évoluer le projet sur l'identité visuelle, de retrouver toujours une esthétique un peu léchée dans les couleurs et d'avoir vraiment les télés qui ressortent par rapport à l'artiste. C'est pour ça aussi qu'on associe le fait d'avoir une partie éclairée, où le studio est éclairé, on voit bien les artistes. Et sur une track, un moment précis, un moment fort du set, on éteint les lumières et il y a vraiment toutes les télés qui ressortent. Et c'est là où on refait sortir en globalité la direction de l'artiste. Donc ça peut être des médias, une identité, une grosse couleur forte. Et ça varie selon tous les artistes. Donc il y a aussi ça comme challenge, de devoir s'adapter à chaque artiste, à chaque identité, à chaque style. Et c'est aussi ça qui nous fait plaisir, c'est de pouvoir avoir une programmation assez éclectique qui s'est fait en place sur cette première année, en espérant qu'on puisse toujours avoir autant de variété sur les genres de la musique électronique de manière générale.
Bah donc au niveau musique, c'est principalement électronique, vous ne faites pas du rock'n'roll?
Non,
c'est un peu bon.
Il m'embête depuis tout à l'heure avec du rock'n'roll.
Non, c'est vraiment électronique. Ouais. Mais dans la globalité, on a tous nos petites préférences. Donc Baptiste, Dylan et Maxime viennent vraiment de la bass music. Au contraire de Simon et moi qui viennent plus de la musique techno en global. Donc même sur ce qui est programmation, sur les noms qu'on connaît ou pas, on se complète très bien aussi sur les choix. Et ça fait qu'on a une team qui est très ouverte sur les styles. Et on n'était pas de base de la bass music avant de les rencontrer. Maintenant on y est beaucoup plus. Et inversement pour les gars, on s'ouvre beaucoup plus à ces styles qu'on connaissait pas du tout. Et ça fait plaisir de pouvoir allier aussi nos deux passions de la musique qui sont aussi différentes dans les styles, et de le mettre en commun pour faire une programmation toujours plus poussée.
Ouais, bien sûr. Alors attention, c'est pas du rock'n'roll, hein, mais on a des artistes. En fait, on fait un format DJ set classique et un format plutôt live set. Et pour le coup, on a eu déjà pas mal d'hybrides entre metal et techno, etc. Et hier, on a eu du coup, c'était Lolita et Brent en metal, gabber, hardcore. Donc c'est assez intéressant. Ça sortira bientôt et c'était vraiment cool. C'est chouette.
En vous écoutant, donc je suis en train un peu de visualiser aussi ce que vous faites, parce que je ne connaissais pas avant. Il y a un truc qui me paraît assez, je sais pas comment dire, un peu incroyable, un peu délirant aussi, c'est que donc il y a les télés qui diffusent un truc, et vous, après, vous filmez les télés qui diffusent quelque chose, vous les prenez en photo pour les remettre après sur un réseau, vous les regardez. Il y a une sorte un peu de...
C'est un peu
comme un miroir aussi, tu sais, quand tu as plein de miroirs les uns derrière les autres. Ça me fait, enfin, je pense à ça, je sais pas si...
Des machines qu'on filme avec des machines retranscrites dans une machine.
Du média.
Prends le micro. Ouais, c'est vrai que vous êtes à 5, c'est pas facile. Hein.
On n'a pas assez de micro.
Attends, il y en a 3 maintenant.
Ouais, non, je prends l'heure. Non, en fait, ça revient aussi au sujet de base, c'est que on voulait que le projet ait vraiment du sens, même sur le niveau de l'écriture et de l'histoire qu'on veut raconter. Donc le choix du nom cassette n'est pas venu aussi par hasard, c'est que tout tourne autour de la cassette, donc qui est signée à chaque fois par l'artiste avec des éléments qui représentent son style et sa personnalité, toute sa direction artistique. C'est pour ça aussi que dans le choix, on est très... On essaye d'être assez éclectique et de vraiment regarder chaque projet à fond pour voir si le projet musical est aussi poussé que le projet de la direction artistique. Et tout tourne autour de cette cassette, donc à chaque début de set, l'artiste va insérer une cassette dans un lecteur et va la sortir quand elle sera finie. Et ce qu'on filme
va en fait retranscrire ce qu'il y avait dans la cassette qui enregistre le set et qui est revisionné dans les télés. Donc c'est un peu Inception où on refilme ce qu'on voit dans les télés. C'est tout tourne autour de cette cassette sur la partie un peu direction et comment on visualise le truc.
Et du coup, vous, à travers ce projet, c'était quoi l'idée? Qu'est-ce que vous avez envie que les gens ressentent, pensent quand ils voient vos vidéos, quand ils voient vos formats YouTube, quand ils tombent sur votre Insta? Qu'est-ce que vous avez envie qu'il se passe, quoi?
Alors ça est... Comment l'expliquer? La cassette, c'est un objet qui est assez particulier parce que c'est un objet nostalgique qui ramène aussi aux souvenirs et à l'histoire. Et on utilisait la cassette, enfin moi je l'ai connue en étant petit, mes parents qui filment ma naissance, je sais pas, les anniversaires. Et on revient à un moment de vie, à un souvenir assez simple et important qu'on capture pour le temps d'un moment. Il y avait aussi un peu ça dans l'idée de cassette, d'avoir tout cet aspect nostalgique déjà de parler vieille télé cathodique, et qui allait très bien avec cette histoire de magnétoscope, de cassette et toute l'esthétique globale au final. Mais enfin, l'histoire de l'objet de la cassette a vraiment inspiré le concept au global pour écrire l'histoire de cassette aujourd'hui et le diffuser comme des petits moments de vie de chacun, hyper singuliers à chaque personne, par leur identité, par leur identité qui est remise dans les télés et par chaque diffusion qui est comme une cassette. On a le nom de l'artiste et la date comme on le faisait avant dans nos supports.
Alors moi j'ai une petite question avec plein de chiffres. Si on devait donner plein de chiffres, comme voilà, ça fait combien de temps que vous existez? Quel est le mur le plus grand que vous avez créé? Vous avez créé combien de médias jusqu'à maintenant? Voilà, si on devait citer quelques chiffres, est-ce que vous en avez en tête à nous partager?
Ouais, pour les chiffres techniques du mur, on est aujourd'hui on pilote 24 télé cathodiques et avec 21 signaux singuliers parce que on triche en faisant des petites recopies. C'est des limites pour l'instant juste ouais, techniques et un peu financières aussi, parce que c'est un prix, vous vous doutez bien. Et sur la partie plus épisodes, nombre d'épisodes tournés, je laisse Dylan répondre.
On a sorti donc 54 épisodes.
Ah ouais.
Donc avec un rythme d'un par semaine. Donc on a soufflé les bougies du projet la première année il y a quelques semaines. C'était fin mars. Donc on est à 54, sachant que dans tout ça, on a eu des artistes et lillois, des artistes un peu plus gros en date. Les derniers, on a eu Mid, Mandragora, qui sont des artistes internationalement reconnus. Après, on chiffre en termes de vues. En termes de...
Ouais.
Non, mais sur l'année au global, c'est une promo assez classique. On est à plus de... On a plus de 400 000 ou 500 000 sur impression sur, ouais. sur YouTube réseaux, ouais. Et sur Instagram aussi. Donc juste sur l'année 2025 et avec plus de 60 000 vues sur le YouTube.
Ah oui.
Au global.
Ça prend bien. Vous êtes satisfait?
Oui. Ouais. Après, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on s'attendait pas, des sorties, et c'est surtout aussi sur les artistes, parce qu'on va toujours essayer d'aller chercher. Le plus gros, nous, on n'a pas la peur d'aller chercher le plus gros, d'aller essayer de démarcher. Et dans tous les cas, on part au culot, on sait que même si on a une mauvaise réponse, au moins on aura une réponse et on aura tenté. Et c'est pour ça qu'on a eu quelqu'un comme Vortex, comme Mandragora, comme Mid, où on se serait même pas dit que c'était envisageable il y a un an, quoi.
Ah oui.
Mais c'est vrai que le projet, en fait, pour revenir aussi un petit peu à ce qui a été dit, dès le début a été pensé pour les artistes. En fait, nous, notre but, l'esthétique, on voulait que ça parle en premier lieu aux artistes avant que ça parle plutôt sur les réseaux sociaux. D'où le fait que c'est un projet qui est quand même très sérieux, à l'inverse d'autres projets qui peuvent être, pour le coup, un peu plus tournés réseaux sociaux, où on essaye d'aller sur du format vertical pur. Nous, on voulait une esthétique qui soit assez épurée et qui plaise aux artistes. Et le pari a un peu réussi parce que on a eu des artistes confirmés qui sont passés. Et ce qui est super agréable, c'est de savoir que notre travail, il est quand même aujourd'hui regardé par des labels, des grosses structures de la musique électronique aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe ou même dans le monde. Et avec cette volonté toujours, nous, de placer Lille au cœur du projet, de dire vraiment qu'on vient d'ici, on vient de Lille, et essayer un peu de retenter avec tous les autres collectifs ici à Lille, de remettre un peu Lille, on va dire, sur la carte de France de la musique électronique, quoi. Il se passe des choses, quoi.
Et sur un an, du coup... Ah, pardon, excuse-moi, juste pour compléter. Sur un an, donc, du coup, 54 médias produits sur cette deuxième année. C'est un rythme que vous pensez encore pouvoir tenir parce que c'est hyper productif. Alors, franchement, félicitations d'avoir tenu un an avec ce rythme-là. Est-ce que vous avez encore, justement, en tout cas, l'énergie, le moyen ou, voilà, d'autres, peut-être, visions sur la deuxième année, ou est-ce que c'est, voilà, le même...
Oui, bien sûr. C'est, en fait, c'est... Faut se dire que, du coup, on tourne tout... Du coup, sur des sessions, on fait entre 1 et 5 artistes. Donc, c'est des sessions qui vont entre 30 minutes et 1 heure jusqu'à 1 heure et demie, qui sont ensuite montées, talonnées et diffusées sur, préparées pour les réseaux dans la foulée. Donc, en rythme, ouais, c'est assez énergivore. Ça prend beaucoup de temps. Et puis, s'il y a beaucoup de demandes, on se réfère aussi par rapport à l'artiste sur ses demandes, si jamais il veut des passages précis. Pour surtout, s'il veut mettre des tracks en avant, parce que c'est aussi ce pourquoi le média est très puissant, c'est qu'on peut afficher et visuellement et musicalement toutes leurs nouvelles sorties, et c'est une promo qui est non négligeable, et c'est ce aussi pourquoi les gens sont hyper contents de venir, c'est que la diffusion médiatique et ce que ça apporte est vraiment hyper, hyper forte et parlante. Et ça fait beaucoup de temps de montage, parfois quelques nuits blanches à se tirer les cheveux, mais on a réussi avec le temps à tous se poser les bonnes questions sur comment adapter notre façon de travailler pour qu'on puisse allier ce projet, qui est un projet où on est full-time bénévole dessus et on se tire pas de bénéfices, et en même temps avoir notre activité, notre vie professionnelle et personnelle derrière. Donc il y a des moments, il y a des semaines ou des mois où c'est plus ou moins violent, ça dépend vraiment des sessions. Il y a des mois où on va être tranquille parce qu'on aura deux mois d'avance, et d'autres où ça va être un peu le rush, où on va en avoir retourné un en urgence. Mais globalement ça va, on est encore là et le rythme tient bon.
Avec la patate en tout cas.
Et on est là pour faire en sorte que ça, tout le monde ait sa diffusion le lundi et que tout le monde puisse avoir ça chaque semaine, quoi.
Sur la suite, la continuité du projet, vous souhaitez rester dans votre studio à faire vraiment uniquement du média? Vous avez envie de faire du live, de bouger les télés sur des grosses scènes, est-ce que c'est un projet? Est-ce que vous en avez déjà pensé?
En fait, nous, on a fait le chemin inverse, on vient de l'événementiel avec Chicken Wave, donc on va dire on a fait pas mal de soirées un peu partout, que ce soit même pour Maxime qui, avec son crew Bass Impact, on fait pas mal d'événements, et en fait on a fait le chemin inverse, on est reparti plutôt sur un format digital qu'on va aller pouvoir partager assez facilement. Bien sûr, il y a des projets qui arrivent, le projet court terme, c'est justement, pour revenir un peu même sur la question précédente, nous, en fait, on a essayé de se prouver à nous-mêmes pendant un an qu'on savait faire une sortie par semaine. On savait pas si on allait le tenir. C'est un peu, nous, on l'appelait saison 0, une saison de test pendant un an. Et là, on est en train de finaliser une saison 1 qu'on espère pouvoir partager assez rapidement avec pas mal de modifications majeures sur l'ensemble de la direction artistique, la scénographie, la programmation aussi, ça va pas mal évoluer. Et donc c'est la suite du projet là en ce moment sur lequel on travaille.
Mais même identitairement aussi, sur le fait de tous les médias, toute la création autour de ce projet, le but c'est d'associer aussi tous les artistes potentiels VJ qui puissent partager leur contenu, ce qu'ils puissent faire, et aussi qu'on reçoive plein de VJ différents, pour justement avoir des techniques qui diffèrent de l'un à l'autre. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est de pouvoir partager tous les petits talents qui gravitent autour de ce projet et de les montrer, les mettre sur le devant de la scène. Donc c'est aussi un projet qui est là pour le partage, donc soit pour les artistes comme les artistes VJ qui peuvent venir sur certaines sessions. Et ouais, le but c'est de développer ça à fond et que ce soit vraiment un petit labo où tout le monde puisse vraiment y mettre sa petite touche pour pouvoir faire grandir ce projet, quoi.
Et du coup, on parlait un petit peu à venir. Ah, tu voulais compléter ? Vas-y.
Ouais, comment on peut continuer sur le fait que, en effet, Cassette, ça mêle plein de petits métiers artistiques. Enfin, de par le DJ, les VJ, du coup, vidéo jockey, mais aussi toutes les personnes qui créent les visuels et qui créent les concepts, enfin, les images, comme des motion designers et tout ça. Donc, l'idée, c'est, pour rebondir sur la phrase de Léo, c'est vraiment d'avoir une sorte de labo artistique où tout le monde peut y mettre sa patte. Et nous, Cassette, c'est aussi de venir séduire un peu les meilleurs et de les mettre en avant, de les remettre en valeur. Je pense qu'on a encore beaucoup de DJ à séduire et à accueillir qui iraient très bien dans notre concept et ça c'est aussi le futur du projet.
Justement c'était la question que j'allais poser, s'il y a un artiste que vous kifferiez en fait voilà, capter, ce serait qui? Alors je pense que vous avez peut-être tous des différents, mais voilà, celui qui met le plus, allez vas-y, celui-là il faut, c'est notre objectif presque allez. Final quoi, au-dessus c'est le soleil. Alors ça c'est la première question, et la deuxième question, donc du coup je comprends que lundi il y a une nouvelle publication, est-ce que ça a déjà été annoncé sur quel artiste ce serait? Est-ce que voilà, on peut avoir des petits éléments de teasing peut-être sur vos prochaines sorties?
Ok, on va commencer par le meilleur artiste pour chacun. pour moi, ce serait, je prends un des plus faciles, Fred Again,
ouais.
Qui serait vraiment incroyable. C'est un peu rêveur, mais on y croit, et je pense qu'à un moment, on aura le culot pour le tenter.
Je croyais que t'aurais dit Skrillex, parce que je crois que tu m'avais parlé de Skrillex la dernière fois à la radio, là.
Ah,
ouais, tu vois.
Il va peut-être venir après. Vas-y, tiens Léo.
Ouais, du coup sur les prochaines sorties, ou peut-être un autre artiste.
Moi je pensais qu'on allait faire les 5.
Allez-y,
de voir aussi.
Allez-y. Bah carrément.
Pour moi, j'essaye de réfléchir, mais je pense que c'est quelqu'un qui a autant une identité musicale que visuelle qui est performante. Moi je penserais à DJ G2G. C'est un américain qui fait de la bounce avec des mashups vraiment un peu loufoques. Qui mélange un peu des styles qui partent un peu dans tous les sens et qui a une identité visuelle assez colorée, qui pète dans tous les sens, même sur les réseaux c'est très loufoque, mais je sais que c'est un artiste qui matcherait super bien sur ce concept, sur le fait d'avoir vraiment un style assez loufoque et de le mélanger avec des visuels un peu hors du commun quoi.
On va essayer d'allonger un petit peu, sinon on peut prendre le micro à côté au pire.
Moi je pense que mon artiste favori, ce serait un The Blaze, ce duo français, je pense qui mérite nos petites télés, voilà.
Carrément, avec leur petite machine devant, là je vois bien déjà l'effet visuel, ouais.
Alors, l'artiste que je voudrais voir passer chez Cassette, ce serait Apache,
okay.
Qui est pour moi le Hans Zimmer de la basse musique. Si le ou la programmatrice de l'aéronef est ici, Apache s'il vous plaît, en 2027.
Si on se laisse un peu le rêve, mais c'est aussi ça un peu ce projet. Pour le coup, moi il y a deux artistes que j'ai en tête qui colleraient avec l'esthétique de Cassette. C'est deux français, c'est Justice,
ouais.
Déjà, en premier, et un lyonnais, Gesaflstein. Ce serait incroyable, je pense que ça serait vraiment deux catégories d'artistes qui seraient incroyables à accueillir, en tout cas chez nous. Et pour terminer justement sur cette publication, cette semaine c'est un peu particulier, on va pas sortir de set justement, parce qu'on va commencer à annoncer la suite. La suite, comme on l'a évoqué, la saison 1 qui devrait suivre.
Alors la dernière question pour aujourd'hui, au niveau des supports, Betamax, V2000 ou VHS? Vous n'êtes pas obligé, c'était
laser du VHS. VHS.
Ouais, l'esthétique VHS.
Enfin, l'esthétique, va dire le système, tu vois.
C'est VHS, ouais.
Non, c'est VHS.
Ouais, ouais. Ouais.
C'est
simple,
mais Betacam, ce serait sympa. Ce serait un peu différent.
Et V2000, ça a pas percé, quoi. Ça.
Non, c'est. C'est
comme
trop...
les laser disques, ça a pas.
C'est ça. C'était trop novateur pour l'époque.
Et moi, je vois du coup Minolta, Canon ou Olympus.
Ouais, ah ouais, pas mal. ou alors Minolta.
Okay, très bon choix.
Bah, merci beaucoup. On a
merci
appris
beaucoup.
Encore plein de trucs.
Merci les gars. On merci rappelle vos réseaux. On peut vous retrouver où?
Bah sur Cassette, simplement. Ouais.
Cassette.tv,
sur Instagram principalement.
K-S-E-T.
Super.
Mais écoutez les gars, j'ai été ravie de vous accueillir. Vraiment, vous avez un super projet. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous garde avec moi encore une petite seconde, parce qu'à chaque fin d'interview,
la petite roue de la fortune,
on fait tourner une roue. Et du coup, je vais vous demander à l'un de vous de choisir quelqu'un au hasard dans le public pour venir tenter de gagner quelque chose ici.
Max, choisis quelqu'un.
Si vous voulez te tirer au sort, regardez par ici. Hein.
Tu vas chercher la personne. Vous avez plein de gens dans la verrière là-bas. Vous voulez pas choisir au hasard?
Juste derrière moi.
Vas-y, Max.
Peut-être qu'elle regarde pas.
Allô.
La petite fille à lunettes?
Ah.
Tu es appelée sur la scène.
Bravo.
Tu peux venir tourner la roue ici? Attention.
Bravo, t'as gagné une bière.
Roulement de tambour.
Ah, tu peux retenter ta chance.
Ah.
Roulement de tambour.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Avec les pieds. Et tu as gagné un petit ticket pour gagner à manger. Une petite frite, un petit tenders, quelque chose qui te fera plaisir.
Félicitations.
S'il te plaît. Je t'en prie. Merci beaucoup les gars.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Et rendez-vous à 17h pour la suite.